Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois en interview numéro 2 Karine Julien El-Kaïm, présidente Polylogie et présidente du directoire Le Giret. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors, on a débattu, et j'incite nos auditeurs, et j'insiste aussi un petit peu, sur le fait qu'ils écoutent avec attention la première interview qui était assez dynamique, et j'avoue qui sort un petit peu des codes, puisqu'on a parlé de tous les produits de Polylogie dans la même conversation. Voilà, on n'a pas sectorisé. Mais là, j'aimerais bien être un tout petit peu plus précise avec vous, parce qu'on a effectivement discuté de ces grandes emprises du groupe dans certaines villes et comment vous aviez, décidé, parce que vous avez une structure d'aménagement, de proposer dans un même périmètre de la rénovation, etc. Donnez-moi un exemple plus précis. Est-ce qu'il y a une ville, on va dire en banlieue parisienne, où il y a aujourd'hui justement ce type d'études et de travail hein ?
Alors effectivement, à l'heure actuelle, on a 4 projets qui sont en cours et notamment on en a 2 qui sont vraiment dans leur phase on va dire opératoire, dont une qui est dans à 400 mètres du nouveau métro de Roussy à Villejuif. Donc c'est une emprise, donc c'était un quartier prioritaire de la ville qui s'appelle Alexandre Dumas. Qui est historiquement des immeubles qui ont été construits dans les années 60-70.
Très anciens.
Très anciens, où vous avez des immeubles aujourd'hui Logirep, donc logement famille. Et puis, très enclavé, vous aviez une barre Adoma, puisque historiquement, Logirep et Adoma étaient, étaient liés. Très liés, dans la mesure où, quand la Sona Cotra, à l'époque, a été créée par Eugène Claudius Petit, ensuite, on lui a demandé de créer des structures pour justement intégrer les familles. C'est la raison pour laquelle il y a eu la création de plusieurs sociétés, dont Logirep. Mmh. Donc Logirep, quelque part, était une fille de la Sona Cotra, qui est devenue maintenant Adoma. Donc on a beaucoup d'emprises aujourd'hui, où on a des immeubles Adoma, avec des immeubles Logirep.
Je me permets de vous arrêter. Me dites pas que ces immeubles n'avaient pas été rénovés par des Palulos avant. Il y avait eu même une première, c'est ça.
Oui, oui. Bon, mais c'est...
Je suis un peu rassurée.
Oui,
quand
oui,
même.
Mais c'est généralement une réhabilitation. Tous les 25.
Pas terrible, hein.
25-30 ans. À l'époque, c'était plutôt belles réhabilitations. Mais il y en a un certain nombre qui étaient des belles réhabilitations. Mais la seule chose, c'est qu'une réhabilitation,
ça passe.
Il faut y repasser tous les 25-30 ans. Voilà. Donc, sur cette emprise où on avait un vrai sujet de construction historique et notamment de problématiques de chaufferie, on s'est posé la question de savoir...
C'était une chaufferie gaz
Alors, c'était une chaufferie gaz, mais qui justement était sur la globalité du patrimoine. Et donc, comme il y avait effectivement des réhabilitations à faire aussi de tout ce qui était isolation, etc., on s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas un autre avenir pour ces immeubles. Et donc, en fait, on a discuté avec Adoma et la collectivité. Et comme Adoma avait d'autres projets par rapport à cette barre, on a décidé de travailler avec eux sur ce sujet-là. Et en plus de ça, cette emprise est au sein d'une SAC. Donc, on a commencé à travailler...
C'est-à-dire que le périmètre de la SAC avait été décidé par la ville.
Oui.
Et l'emprise Logirep était insérée dans la SAC.
Une partie, pas toute.
D'accord.
Voilà, il y avait une partie qui était dedans, mais pas toute.
Compliqué.
Voilà, exactement. et donc, en fait, là, on a commencé à travailler donc avec la ville, l'aménageur et notre aménageur à nous, puisque nous, on a une structure d'aménagement aussi.
CITAM.
Sur le devenir de ces résidences. Et donc, c'est des sujets qui sont très, très longs. Parce qu'en plus de ça, on est juste à côté d'un parc. La ville avait une volonté de pouvoir ouvrir ce parc sur justement le reste de la ville. Et donc, on a travaillé avec eux. Et ce qui a été décidé, c'était de démolir une partie des logements. Donc là, l'intégralité de la barre Adoma.
Ah oui.
Une partie.
C'était pas neutre.
Non, c'était pas neutre. Une partie des logements de Logirep. De réhabiliter une partie des plots qu'on avait. Alors, je dis plots parce qu'en fait, c'est pas vraiment des tours, mais c'est quand même des immeubles assez importants.
Enfin, c'est des immeubles, en tout cas, qui ont 4 faces.
Voilà, R+8, R+9. Et donc, de créer un peu plus de 22 000 mètres carrés. avec 36% de logements sociaux et le reste de l'accession, l'accession à la propriété.
Donc, alors, ouais,
on démolit, on réhabilite, on construit de l'accession et du logement social. L'objectif, c'était de reconstituer l'intégralité des logements sociaux. Donc, on aura construit une partie sur site et puis une autre partie sur l'emprise de la ville. On a des commerces...
Pardon, sur l'emprise de la ville ou sur l'emprise de la ZAC ?
Non, de la ville.
De la ville.
Alors, il y en a qui sont proches de la ZAC et puis il y en a qui sont plus loin.
Donc, du coup, vous avez dû faire l'acquisition de foncier ? Comment ça s'est passé au niveau foncier ?
Tout à fait. On a travaillé avec la ville et l'aménageur pour acheter du foncier ailleurs.
Alors, quelque part, acheter du foncier, alors que vous êtes propriétaire de votre propre foncier, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette dépense d'argent, parce que vous avez dû dépenser, ne met pas en déséquilibre toute une opération, alors que vous avez un foncier largement, je dirais, payé depuis des années. Comment on fait pour justement pouvoir équilibrer ce type d'opération ?
Ben en fait, on regarde la globalité de l'opération. Là, on ne se pose pas la question de savoir quel est l'opérateur derrière.
D'accord.
Au niveau du groupe, nous, on regarde la globalité de notre opération d'aménagement. Donc, il faut qu'on finance la réhabilitation. Donc là, on a un peu plus de 100 logements à réhabiliter. Il faut qu'on paye la déconstruction, parce que la déconstruction, ça coûte cher. Faut qu'on paye toute la résidentialisation. Et qu'on finance aussi les constructions neuves. Et
en fait, sur des fonciers que vous achetez
tout à fait.
Ailleurs.
Alors, sur notre patrimoine ou ailleurs. Et en fait, tout ça, on le finance avec la vente des droits à construire.
D'accord.
Qui ensuite vont être construits par une autre structure et qui va le vendre en accession. Donc en fait, c'est vraiment la globalité de ces opérations qu'on regarde. Et nous, notre objectif dans tout ça, c'est de faire en sorte qu'on puisse, via les droits à construire, financer la globalité de notre opération, c'est-à-dire toute la partie reconstruction, réhabilitation et déconstruction.
Alors, je suppose qu'il y a quand même quelques équipements. Comment se passe la discussion avec la ville sur des équipements, des espaces ouverts au public, de la voirie? C'est une voirie qui est peut-être aujourd'hui au sein d'un patrimoine privé, mais qui demain est une voirie publique. Comment se fait la discussion? C'est pas trop compliqué de discuter avec les services d'une ville alors que vous avez votre propre structure d'aménagement et vos idées?
Alors, c'est vraiment une discussion partenariale. Ça prend du temps au départ pour se mettre d'accord, pour regarder tout ça, parce qu'en plus de ça, on avait un projet, la ville avait un projet de pouvoir construire une école au sein de cette emprise.
D'accord.
Donc ensuite, il y a eu des échanges, des réflexions pendant de nombreux mois pour trouver
la pertinence,
le juste milieu entre nos problématiques, nos besoins financiers, les besoins de la ville, et puis aussi l'aménageur, puisqu'il y avait aussi l'aménageur qui rentrait en ligne de compte. Et donc ça a été des échanges pendant plusieurs mois pour arriver justement au fait de dire on va réhabiliter. On va construire nos 22 300 m² avec notre quote-part de logement social et notre quote-part d'accession. On avait des commerces à qui on a proposé une autre localisation dans le nouveau quartier. Donc des locataires, en tout cas des commerces qui sont locataires aujourd'hui de Logirep et qui seront locataires de Logirep demain, mais ailleurs, mais
avec un loyer un peu plus fort, donc comment...
Ah non, parce que on travaille sur ce genre de projet, on fait en sorte d'offrir...
Loyer constant.
Loyer constant, parce qu'autrement, on ne peut pas emmener avec nous tous nos partenaires.
Ça fragilise aussi un petit peu...
Après, s'ils veulent avoir plus de mètres carrés,
c'est
autre chose. Mais en tout cas, sur une emprise équivalente, on est sur des choses équivalentes. Et donc, on a donc relocalisé nos commerces, parce que pour nous, les commerces, c'est extrêmement important, parce que ça, c'est vraiment des services qu'on offre à nos locataires.
Je me permets de vous couper la parole sur ce point. Est-ce qu'aujourd'hui, le commerce, alors on ne parle pas spécialement commerce aujourd'hui, mais aujourd'hui, est-ce que le commerce en pied d'immeuble dans ce genre de projet a toujours la même valeur qu'il y a quelques années, parce que le retail et le commerce sont un peu secoués, on va dire, par tout ce qui est achat en ligne. Comment vous trouvez le bon locataire ou le bon, activateur de réflexion sur l'urbain?
En fait, on travaille, nous, avec les maires, les collectivités, sur ces sujets-là. À chaque fois qu'on fait des constructions neuves, on essaie de mettre justement des pieds d'immeuble pour justement dynamiser le quartier et offrir un service. Et donc, on travaille avec les collectivités en fonction des besoins, parce que c'est eux qui savent le mieux,
bien sûr, les besoins des habitants,
pour trouver le meilleur commerce. Donc, nous, c'est plutôt des petites surfaces. Hein. On est entre 100, 200, 300 mètres carrés. Ça dépend un peu ce qu'on construit. Mais en fait, généralement, on n'a pas de sujet, pas de problème à trouver des commerçants. Mais là, de toute façon, c'est des commerçants qui sont déjà là.
Oui, c'est ça, qui étaient déjà là.
Des supérettes,
donc, voilà.
etc.
Donc, ils avaient très envie de rester.
Et pharmacies, etc. Et puis, on construit une école aussi. On fait un meilleur paysager, on ouvre le parc. Donc, en fait, on est vraiment sur des projets qui sont...
Un acteur important de la ville.
Voilà, extrêmement intéressant parce que ça permet d'améliorer l'habitat de tous nos locataires, de travailler sur cette mixité, parce que là, on était vraiment sur un quartier 100% logement social, de pouvoir amener une dynamique commerciale avec des nouveaux commerces, avec l'école, qui est un vrai service aussi pour...
Et donc, une voirie publique.
Une voirie publique.
Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, votre foncier, vous êtes, impacté d'une manière positive, évidemment, par une voie publique.
Tout ça, ça se travaille avec la collectivité sur des échanges de parcelles en fonction...
Les notaires travaillent beaucoup.
Sur ce type de produit, oui. Il n'y a pas que les notaires qui travaillent beaucoup.
Non, bien sûr. Mais justement, quelque part, il y a à la fois un intérêt formidable, parce que c'est des projets qui se développent sur combien? 10 ans?
C'est des projets qui prennent à peu près 10 ans. Quand, à partir du moment où on va faire de la déconstruction, déconstruire, c'est à peu près 3 ans pour reloger les gens, et ensuite un an et demi pour déconstruire. Donc rien que ça, il y en a pour presque 5 ans.
Alors comment on fait pour graver dans le marbre ce genre de projet, alors que quelque part, entre 2 sur 10 ans, il y a des élections?
On a des protocoles qu'on signe.
D'accord.
Avec les collectivités, avec
gravé
les aménageurs.
Le marbre, quel que soit le maire.
Parce qu'après, effectivement, on peut travailler avec eux au fur et à mesure sur l'évolution de certains sujets. Mais la construction, c'est du long terme. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui, parce qu'effectivement, nous, on travaille dans le long terme, alors que globalement, tout le monde est à l'instantané sur Instagram, etc. Et nous, on travaille dans le long terme. Et c'est pour ça que d'avoir... C'est vraiment ces relations de proximité avec les collectivités, c'est extrêmement important pour nous.
Nous sommes en plein salon des maires. Je vous remercie de cette interview. Et vraiment, je trouve qu'on a dépatouillé certains projets extrêmement intéressants, extrêmement dynamiques. Et bravo, peut-être bientôt pour l'inauguration de votre projet à Villejuif, dans quelques années.
Oui,
merci,
tout à
madame.
Fait. Merci.
Merci, chers auditeurs, et à bientôt sur nos antennes.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.fr.